On va tout de suite démarrer donc avec notre table ronde dédiée à des acteurs et des initiatives dans le domaine de la jeunesse, dans le département. Donc voilà, donner la parole à certains des acteurs, pas tous hein, bien sûr, mais certains des acteurs majeurs du secteur de la jeunesse dans le département. Donc c'est Arnaud Sopania qui va animer cette table ronde. Voilà, l'objectif étant d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir aussi le regard des professionnels sur les sujets que nous venons d'aborder et éventuellement leur regard sur les moyens d'action dont ils disposent et les perspectives voilà, qu'ils voient dans les actions jeunesse et parentale. L'animation de la table.
Merci. Bonjour à tous. Donc on vous propose donc un temps d'échange sur cette table ronde qui réunit donc des acteurs qui interviennent auprès des jeunes et des parents sur les usages du numérique. Dans un premier temps, je vous propose de vous présenter. Ça nous permettra en même temps de vérifier que vous êtes, qu'il n'y a pas de problème de connexion. Et puis ensuite, eh bien, on définira le double objectif de ce temps et on vous laissera la parole. Le but étant de favoriser un maximum les échanges entre vous, professionnels, et aussi le monde scientifique qui a pu présenter ses résultats dans le premier temps. Soledad Tolosa, peut-être pour commencer sur
oui.
Voilà, la fonction, la structure de nous.
Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend?
Oui.
Super. Donc, je m'appelle Soledad, je suis coordinatrice de l'antenne Alpes-Maritimes de l'association Les Petits Débrouillards, association de médiation scientifique, vous connaissez peut-être. Et donc, depuis 2019, avec Barbara, j'ai repris la coordination du dispositif des promeneurs du net.
Merci, Soledad. Roxane Obadia du CLEMI.
Oui, bonjour. Je suis donc Roxane Obadia, la coordonnatrice académique pour le CLEMI. On en a parlé tout à l'heure. C'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui est un centre national qui existe depuis 1983 et qui a une antenne dans chaque académie. Donc, nous, notre académie, ça concerne le département des Alpes-Maritimes et du Var. Et on intervient donc sur toutes ces thématiques d'éducation aux médias et à l'information, de la maternelle chez les tout-petits, 2-3 ans, jusqu'à l'université. Nous avons des chargés de mission sur tout le territoire pour intervenir dans les établissements. Alors, nous, on se concentre vraiment sur les établissements scolaires. Néanmoins, on a développé quelques programmes hors établissement, notamment dans les hôpitaux, pour accompagner les enfants hospitalisés et dans les centres pénitentiaires, là, à destination des adultes, dans tout ce qui est prévention de la radicalisation et contre les théories du complot.
Merci, Roxane. Christophe Aurouet, du Point Accueil Jeunes, Écoute Jeunes, Cagnes-sur-Mer.
Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc je suis le directeur de l'ARPAS. J'interviens aujourd'hui donc au niveau du Point Accueil Écoute Jeunes, qui est un dispositif d'accueil, d'écoute, de rencontre, d'accompagnement inconditionnel des jeunes âgés de 11 à 25 ans. Alors, on travaille dans les murs, dans nos propres locaux, et on est aussi sur les structures des partenaires en fonction des territoires.
Merci. Et enfin, Yann Bocan, accompagné de Émile Mbumba Maganga et également de mesdames Nadia Wabi et Leila Bouanami.
Oui, bonjour. Bonjour,
Yann.
Tout le monde. Vous nous entendez ou pas?
Tout à fait.
Voilà. Bonjour, Yann Bocan, responsable du centre social Le Village sur le quartier de l'Ariane à Nice, centre social porté par le CCF de la ville de Nice. Alors, on a un promeneur du net sur le centre social, mais ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on intervient. On intervient par rapport à un projet qui a été construit. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'échange et de la réflexion entre professionnels et parents. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui par rapport à un projet qui a été mené autour des écrans dans le cadre du réseau Parents 06 avec notre partenaire, donc le groupe Action et Solidarité, et un groupe de parents qui a cherché à se questionner sur comment promouvoir le bon usage des outils numériques. Donc c'est eux qui prendront la parole après. Voilà, on a deux mamans qui sont venues témoigner de ce travail.
Okay, merci. Oui.
Alors je suis Pamine Mumba-Maga. Donc c'est Maryam Bagi, psychologue, donc je travaille justement avec Émile dans le cadre des actions de prévention qui sont menées par le XAPA Emergence, et c'est dans ce cadre-là, donc le XAPA Emergence c'est un centre d'addictologie, et c'est dans ce cadre-là que voilà, j'interviens, je suis présente aujourd'hui, et donc ce sera pour parler d'un groupe par rapport à une expérience auprès d'un groupe de parents, voilà, qui a été menée en lien avec, en étroite collaboration avec Réseau Parents 06 de l'ARIAD. Voilà.
Merci.
Et vous pouvez présenter. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Madame Wabi Belkir-Nadia. J'ai participé à un groupe avec Myriam et d'autres parents, notamment des mamans, écran mode d'emploi. C'était un projet très intéressant, très, très riche et très constructif pour nous, par rapport à nos enfants. Et voilà. Je m'arrête là, après s'il y a des questions. C'était un programme sur plusieurs mois avec plusieurs mamans du quartier.
On rentrera dans le détail des actions juste après. Là, simplement pour être là, sur la présentation, pour mettre un visage aussi sur des noms. Et je laisse la parole à madame qui ne s'est pas encore présentée.
Léla. Léla. Et bonjour à tous. Je suis une maman qui a participé au projet Écran mode d'emploi. Et comme a dit ma collègue, c'était pour sur plusieurs mois et voilà.
Merci. Donc sur ce temps, l'objectif est double. C'est à la fois de mettre en perspective les résultats de la recherche qui ont été présentés ce matin avec vos pratiques professionnelles à tous et puis aussi d'avoir un échantillon justement de l'offre qui est présente pour accompagner à la fois les jeunes sur le numérique mais aussi les parents. Donc on a terminé la première partie de la conférence sur le dispositif Promeneur du Net. Donc je vous propose de reprendre les échanges avec Soledad. On a orienté nos questions autour de deux grands points, à savoir les constats. Quels constats vous faites dans vos pratiques professionnelles de terrain? Quelles observations vous avez chez les jeunes et aussi chez les parents? Et puis, face à ça, quelles sont les actions, quels sont les leviers que vous mettez, que vous actionnez, ou les ressources que vous mobilisez pour répondre aux questionnements des jeunes? Soledad. On a perdu Soledad. On a perdu Soledad. Peut-être alors à ce moment-là. En attendant que Soledad revienne, Roxane, vous intervenez auprès d'un public qui est très très proche du public de l'étude présentée ce matin. Qu'est-ce que ça fait écho, cette recherche, et qu'est-ce que vous observez dans vos interventions dans les établissements scolaires?
Alors, effectivement, nous, on travaille avec les élèves, je l'ai dit, de la maternelle à l'université, mais c'est vrai qu'on est plus souvent appelés dans les collèges. Alors, je ne vais pas revenir sur la cyberviolence, la cyberhaine, ça a été très bien expliqué ce matin avec des chiffres à l'appui. Effectivement, c'est une des premières problématiques qui se posent concernant l'utilisation des écrans par les jeunes, mais il y en a d'autres. Les risques, ils sont on peut les catégoriser. Il y a des risques pour la santé, des risques sociaux, des risques cognitifs aussi. Alors, par exemple, une des thématiques importantes, c'est aussi de travailler sur la propriété intellectuelle. Nous sommes des professeurs et une des thématiques intéressantes, c'est aussi d'apprendre aux élèves qu'est-ce que c'est que cette propriété intellectuelle, puisque sur le web, ils vont pouvoir s'approprier parfois des contenus qui ne sont pas les leurs sans les citer. Donc, je pense par exemple à tous les exposés que les élèves peuvent faire, qui sont du copier-coller. Donc là, on va leur apprendre à utiliser à bon escient ces informations. C'est pas du tout notre but, c'est pas de dire n'utilisez pas ces informations. Au contraire, utilisez-les, faites une synthèse qui devienne personnelle et citez vos sources. Et puis, pour des usages moins pédagogiques, mais ludiques et récréatifs, c'est aussi apprendre aux élèves que s'ils écoutent des musiques, s'ils regardent des films, il faut aussi le faire dans le cadre du respect du droit d'auteur. Donc ça peut être une des premières problématiques et thématiques de travail. Il y a aussi tous les stéréotypes sexistes. On n'en a pas réellement parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel les élèves sont souvent confrontés, des images parfois très stéréotypées, très clichées, et qui peuvent conduire les élèves à adopter des conduites parfois à risque, ou en tout cas des conduites stéréotypées. Donc, on essaye aussi de travailler sur ces clichés, notamment sur les réseaux sociaux. On nous présente parfois des images de corps féminins surtout, mais masculins aussi parfois, qui répondent à certains canons esthétiques. Et ça, c'est des thématiques dont on s'empare dans l'éducation nationale, notamment avec un travail avec les infirmières de l'éducation nationale. Et puis, on va travailler également sur les publicités déguisées. Vous connaissez ce terme d'influenceur. Il faut apprendre à nos élèves que les comptes qu'ils suivent, de stars, et notamment parfois de stars de la télé-réalité, sont des comptes qui permettent aux stars de gagner de l'argent en faisant du placement de produits. Donc, c'est quelque chose qui commence à être mieux connu maintenant, ce système-là, mais dont les élèves n'ont pas toujours conscience. Donc, ça fait également partie des dangers, vous nous avez posé la question, quels sont les risques des usages des réseaux et du web. Eh bien, à chaque fois, nous, on préfère, plutôt que de parler de risques, même si on parle de cette pratique-là, voir comment on peut adopter une démarche consciente, un esprit critique. Tout à l'heure, le sociologue a parlé de discernement. Dans l'éducation nationale, on retrouve souvent dans les programmes ce terme d'esprit critique. Être capable d'utiliser ces réseaux avec un esprit critique, avec du discernement. Et puis au niveau des bénéfices, parce qu'il y en a beaucoup, les bénéfices, c'est tout ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. C'est le web, les réseaux sociaux, les pratiques numériques vont permettre à nos élèves de travailler de nouvelles compétences. Alors il y en a beaucoup, je vais en citer quelques-unes. Travailler les compétences de communication, de collaboration, de citoyenneté mondiale, d'autonomie, de créativité. Je crois qu'on reparlera tout à l'heure de cette pédagogie de la créativité. Donc, fort heureusement, les bénéfices sont bien plus nombreux, je l'espère en tout cas, que les risques. Et on part de ces risques pour ensuite amener les élèves vers des pratiques citoyennes, éclairées, autonomes, créatives.
Merci Roxane. On retrouve pas mal de sujets qui sont abordés aussi dans la saison La famille tout écran. Donc, on a retrouvé Soledad qui est de nouveau parmi nous. Et Soledad, est-ce que c'est bon, tu es bien connecté?
Oui, je m'excuse, j'ai un petit souci, je suis à la montagne.
est-ce que tu peux nous parler de des pratiques professionnelles à travers le réseau, des promeneurs du net, mais aussi à travers aussi les interventions des petits débrouillards, et de voir en quoi les résultats présentés ce matin font écho à ce que tu observes et à ce que tu mets en place dans tes pratiques.
Oui, alors Roxane, tu as déjà parlé, donc tu as déjà beaucoup dit de choses. Donc, alors, les petits débrouillards, parce que quand je suis coordinatrice des promeneurs du net, je le fais avec, évidemment, les lunettes des petits débrouillards. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une association d'éducation aux sciences à travers donc la démarche scientifique. Et notre positionnement est toujours de créer du lien, de créer des passerelles entre les mondes des sciences et techniques et le commun des mortels. Et donc, on a une approche un peu de dédramatisation aussi des thématiques. On se base sur l'envie d'apprendre, sur la curiosité. Et donc, en fait, les constats que l'on voit, ben, c'est un peu, vous les connaissez tous, on les connaît, je pense, un petit peu par cœur. Donc, les bénéfices, ben, c'est le lien, c'est la créativité, c'est la rapidité. De la même façon que Roxane, nous, on travaille avec, je pense que tu t'es basée sur les travaux du Lean de Margarida Romero, peut-être, sur les compétences du XXIe siècle. Et donc, le numérique a beaucoup, beaucoup à apporter là-dessus. Donc, vraiment, il y a énormément de bénéfices, en fait, dans le numérique. Les risques, pour nous, c'est que, du coup, on ne les utilise pas vraiment ou pas tout à fait. Notamment, ce que j'observe aussi beaucoup dans le dispositif des promeneurs du net, c'est que... On reste beaucoup sur les questions de réseaux sociaux, en fait. Donc, dans cet usage un peu passif du numérique, et pour moi, ce qui est un peu urgent, un peu important à développer aujourd'hui, c'est les usages créatifs pour qu'on ne subisse pas la révolution numérique, voilà, qu'on soit acteur. Donc, c'est dans ce sens-là aussi qu'on met en place des ateliers ou des accompagnements. C'est que, les réseaux sociaux sont là, mais dans les compétences à développer, il y a, par exemple, je ne sais pas, avoir peu d'enfants ont un garage à la maison aujourd'hui. Donc, il y a des compétences aussi à développer dans la bidouille, dans le code, dans la créativité numérique. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on essaye de développer dans nos ateliers. Voilà, grosso modo. Je ne sais pas si je réponds à la question.
Oui, mais je pense qu'on se fait une assez bonne idée de ce que vous proposez auprès des jeunes. Du coup, ça me fait penser aussi que si au niveau de l'équipe de l'URMIS, n'hésitez pas à intervenir par rapport au témoignage de nos partenaires de terrain, je dirais. Je voudrais passer la parole à Christophe Rouet, qui est directeur d'un point accueil écoute jeunes, où du coup les jeunes viennent plutôt vers vous. Et mais qu'est-ce que vous recueillez comme témoignage, ou qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme ressources?
Oui, la particularité pour les points écoute jeunes, c'est qu'on reçoit donc des jeunes qui sont en difficulté dans leur existence par rapport à des problématiques qui sont extrêmement variées. Donc, par rapport à la préoccupation d'aujourd'hui sur les dangers et les risques du numérique, on a des jeunes qui, par exemple, ont des addictions au jeu. Voilà. Donc après, sur l'usage du numérique, je pense que c'est comme tout usage, et c'est comme tout produit. Ça dépend de la personne qui utilise le numérique. Voilà. Donc nous, on rencontre effectivement des jeunes qui sont en difficulté par rapport à certains usages du fait de leur personnalité, du fait de leur environnement familial, du fait de certaines particularités psychologiques. Du coup, on a des jeunes qui effectivement utilisent, par exemple, de façon massive, jusqu'à, pour certains, donc un risque de déscolarisation, les jeux sur Internet. Voilà. On a d'autres problématiques qui sont, par classe d'âge en fait, hein, parce que je pense que voilà, on peut pas généraliser. On a des problématiques qui sont liées effectivement sur les 11-15 ans, avec des usages qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui sont au lycée. Voilà. Sur les 11-15 ans, on a effectivement beaucoup d'utilisation du téléphone, notamment très peu de l'ordinateur, avec peu de recours à des recherches sur le net, et ils sont beaucoup plus sur des relations interpersonnelles, de petits réseaux communautaires autour effectivement de la classe ou de l'environnement familial. Voilà. Sur le téléphone, le smartphone, l'usage du smartphone, on a aujourd'hui une montée d'une problématique, notamment concernant les filles, sur les applications qui visent à modifier votre image. Donc aujourd'hui, c'est l'esthétique, hein, le net, c'est un miroir. On est en plein dans la problématique spéculaire et dans la problématique narcissique. Alors, c'est toujours pareil. Ça dépend effectivement des profils, hein, des personnes. Il ne faut pas généraliser, des jeunes. Mais aujourd'hui, et dans tous les pays où on a un usage massif du téléphone, donc la France. Je ne vais pas tous les citer, mais ceux qui ont fait des recherches et ceux qui même pour certains, ont dû mettre en place des mesures de protection, c'est l'Italie, le Brésil, où effectivement, on a une montée de la souffrance psychique chez les adolescentes liée à un usage massif des applications visant à modifier votre image dans vos relations interpersonnelles. Donc, c'est des applications qui modifient votre aspect, enfin, vous le connaissez peut-être, et qui font en sorte que vous pouvez vous apparaître différemment de ce que vous êtes réellement. Mais cette exagération va jusqu'à, pour certaines adolescentes, avoir effectivement des complexes et une insatisfaction, voire jusqu'à des dépressions concernant leur image et qui demandent des interventions de type esthétique, des interventions à caractère esthétique. Voilà. Je crois qu'actuellement, je crois que ce qui vient en Italie, je crois qu'ils sont en train de promulguer une loi d'interdiction des interventions esthétiques sur les mineurs de moins de 16 ans. Voilà. Donc ça fait partie des dangers du numérique, et en même temps, ça s'adresse effectivement pas à n'importe quel jeune, et il ne faut pas généraliser cet effet-là à l'ensemble des jeunes. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre difficulté avec le numérique aujourd'hui? On a des comportements, tout à l'heure, pour revenir sur la cyber-haine, c'est souvent intracommunautaire. Et quelques expériences qu'on a, elles sont intracommunautaires et qui visent à effectivement exercer un contrôle sur la communauté. Voilà. Et beaucoup moins que intercommunautaire. Sur les dangers, on a ça, les jeux, et puis, alors, du côté parental, souvent, on le retrouve, une inquiétude et une insatisfaction parentale au travers du délitement de la vie familiale, intrafamiliale, où effectivement les adolescents sont totalement isolés dans leur espace et avec peu d'interaction et peu de partage avec les parents. Voilà.
Merci Christophe. La transition est toute faite pour passer la parole à Yann Bocan et l'équipe du CCAS Le Village et de SOS Solidarité pour avoir un peu le point de vue des parents à travers l'action Écran Mode d'Emploi et leur positionnement par rapport à l'usage du numérique des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette action et de votre point de vue en tant que maman?
Juste une petite, avant que les parents prennent la parole, juste une petite information par rapport à ces ateliers qui ont été menés pendant plusieurs mois, comme l'avaient précisé les parents. On a vraiment essayé de travailler avec les parents la notion de compétence numérique parentale, vraiment de promouvoir leurs compétences. Donc, c'était effectivement pas des groupes où les parents ont été simplement sensibilisés avec des informations, avec des recommandations officielles, mais c'était avant tout un espace de partage et de partage d'expériences, de soutien que les parents ont pu trouver entre eux, et vraiment pour cheminer de ressources, voilà, où justement ils ont pu cheminer par rapport à leur rapport aux écrans, particulièrement par rapport à leurs enfants, et ont aussi pu justement incarner une sorte de relais par rapport aux autres, par rapport à leur entourage, où ils ont pu justement voilà, parler un peu de leurs expériences et de pouvoir sensibiliser à leur tour. Voilà, juste pour faire une petite parenthèse, avant de laisser bien sûr le temps aux parents de s'exprimer sur justement leur expérience.
Voilà, pour les outils et les ressources utilisées, dans un premier temps, c'est grâce aux professionnels et évidemment aussi les autres participants, les autres parents. C'est avec les échanges entre les parents et le professionnel qu'on arrive à avancer et à avoir des points de vue différemment, voire des fois, comme on dit, casser la boîte ancienne pour recommencer, puisque c'est comme ça qu'il faut avancer et qu'on doit avancer, parce que l'écran, c'est vrai qu'il fait partie de nous. On doit avancer avec l'écran, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de bon, voire de très bon. On l'a vu avec le confinement dernier. Grâce à l'écran, on a pu garder les liens avec les écoles. Moi, les enfants, mes enfants, ils sont petits, mais il faut quand même faire les petits devoirs, les petites activités. Mais pour d'autres parents, ils ont des enfants beaucoup plus grands, donc c'est vraiment très, très important d'avoir ce lien avec l'école, avec le collège, etc. Et aussi avec la famille, mais après, de l'autre côté, il faut faire attention, comme on dit, il faut déjà nous-mêmes être le bon exemple pour nos enfants, pour les enfants aussi de la famille, pourquoi pas. C'est en étant un bon exemple que les autres, je pense, ils nous suivent, je ne sais pas. Et d'avoir un cadre, limiter le temps, etc. Je ne sais pas. Leïla.
Voilà pour nous.
Écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages. Donc peut-être pour... Alors, il y a des petites questions. Existe-t-il des groupes parents-enfants, travailleurs sociaux, travailleuses sociales, comme le suggérait Catherine Blaya? Ben là, je pense que ce que vient de nous décrire ces mamans, c'est un peu ce type de groupe qui se sont mis en place. Alors, c'était peut-être pas des travailleurs sociaux, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais peut-être plus des profils de psychologues qui accompagnaient les parents.
Oui, donc les groupes ont été co-animés en fait par Julien Denance qui est psychologue et moi-même. Voilà, donc effectivement, comme j'évoquais tout à l'heure, donc il y a eu vraiment un cheminement des parents. Et donc dans ces groupes, on n'a pas inclus les enfants, puisque l'objectif du groupe, c'était avant tout le soutien à la parentalité et que les parents puissent justement être dans un espace sécurisant. En tout cas, peuvent justement aussi évoquer, parler de leurs difficultés, s'autoriser justement à dire aussi c'est compliqué pour moi, je n'arrive pas, ou comment faire. Voilà. Donc ces questions étaient plus faciles à peut-être à aborder dans un cadre d'autres parents. Voilà. Après, effectivement, l'idée de pouvoir associer des enfants, donc ça serait peut-être, c'est une idée intéressante, mais ça rejoint d'autres objectifs. Voilà, c'est un format différent. Mais de toute façon, comme le rappelait tout à l'heure Madame Blaya, c'est certain que les groupes, on va simplement sensibiliser et donner des informations. Évidemment, on sait bien que ce n'est pas ça qui va permettre de soutenir les parents dans leurs compétences, parce que justement, les parents ont des compétences. C'est vrai que je répète un petit peu ce mot. On parlait tout à l'heure des compétences des premières lunettes, des compétences des professionnels, mais les parents aussi ont des compétences. Ils sont très friands aussi des outils et des recommandations qui peuvent leur être données. Et on vit aussi de pouvoir cheminer, de réfléchir sur cette thématique des écrans qui est importante et qui demande à...
Pour vous compléter, sur cette question-là, les groupes parents, c'est... parents professionnels ou parents entre eux, c'est l'objectif du réseau Parents 06 et du déploiement de toutes ces actions, que ce soit sur le numérique ou sur d'autres thématiques. Et une autre question par rapport à votre action, est-ce qu'on a des papas et en quelle proportion?
Alors pour l'instant, on n'a pas de papas, mais on continue à parler de parents, voilà, même si c'est des mamans qui ont pu participer, parce qu'on laisse la porte ouverte aux papas pour l'instant. Voilà, on n'a pas eu de papas.
Et pour vous compléter également, c'est un constat un peu général sur les actions du réseau parents où on a une présence faible des papas, même si ça change doucement. Là, c'est deux petits sons. Alors, Sabrina Gasmi du Centre social Galice nous pose la question. Nous sommes intéressés pour faire un échange avec le groupe de parents pour un témoignage auprès d'autres parents sur Nice Nord. Donc, Yann, voilà, peut-être se mettre en contact avec Sabrina.
Avec grand plaisir. Et dans un premier temps, peut-être aussi se dire que les parents ont travaillé sur une plaquette lors de ce projet. Donc, ils l'ont élaborée de A à Z. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que je vous la transfère et qu'elle puisse être aussi diffusée aux personnes qui ont participé à cette conférence, qui vont qui a été fait à ce niveau-là.
Oui, oui, oui. Il suffira ça. Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions?
Peut-être sur les... Enfin, moi, j'ai une question qui est à la fois pour Roxane Obadia et Soledad Tolosa au sujet des influenceurs. Il me semble que, avoir compris que les deux organismes s'intéressaient à cette question-là. Peut-être vous pouvez nous en parler, nous dire deux mots au sujet de, voilà, du placement de produits et des influenceurs. Des questions assez importantes.
Alors, je peux répondre si j'y vais.
Oui, oui,
oui. Oui, donc, alors, j'ai pas compris qui c'est qui posait la question, excusez-moi.
Marion,
d'accord. Alors, ce qu'on fait avec les influenceurs, c'est vraiment venu de... C'est remonté, en fait, du terrain. Donc, tous les promeneurs du net, ou la plupart, ont des questions des jeunes, en gros, qui veulent devenir influenceurs ou youtubeurs. Et on s'est dit, ben, pour pouvoir au mieux... répondre à leurs questions, on va lancer une série de rencontres avec des influenceurs qui ont ou des youtubeurs qui ont une certaine audience et pour qu'ils nous racontent un petit peu c'est quoi être youtubeur, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés et que du coup nous en tant que promeneurs on puisse répondre au mieux aux jeunes. Comme ça coupe un petit peu, je suis pas sûre d'avoir tout entendu, mais Marion, n'hésitez pas à me clarifier la... Oui.
Oui, non, merci. C'était...
Peut-être Roxane sur le oui, sur voilà, ce oui. sujet des influenceurs.
Merci pour ça. On vous entend pas, Roxane.
Là, ça devrait aller. Au CLEMI National, il y a un module qui a été développé, un module vidéo qui s'appelle les ateliers déclic critique. Vous les trouvez sur le site du CLEMI. Ce sont des vidéos accessibles par tous, pour tous, et notamment qui peuvent être intéressantes pour les parents. Et il y en a quelques-unes qui s'intéressent à ce phénomène, donc avec un décryptage. Hein. Les ateliers déclic critique, c'est qu'on prend des petites séquences, et puis il y a les élèves qui les décryptent. Qu'est-ce que ça leur évoque, qu'est-ce qu'ils comprennent, et puis ensuite les professionnels de l'information qui apportent éventuellement des compléments d'information. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces modules, des ateliers des clics critiques qui peuvent servir pour travailler sur ce thème. Et puis juste pour rebondir sur ce qui a été dit par une maman de l'Ariane tout à l'heure, et je trouve que c'est très intéressant, c'est le lien et cette coéducation qui est possible entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans les familles et également les partenaires associatifs et autres. Je crois que c'est à la fois notre levier et notre frein, c'est comment bien mieux travailler ensemble. Et sachez que dans les écoles, dans les collèges, les lycées, nous parlons de ça. L'éducation média à l'information, ça fait partie des programmes. Donc, les professeurs abordent ces thématiques avec vos enfants. N'hésitez pas, comme c'est transversal, ce n'est pas une matière, ce n'est pas à telle heure, on a éducation, médias, l'information, ce sont tous les professeurs qui sont amenés à en faire. Donc, c'est un peu diffus, peut-être que c'est compliqué à percevoir, mais sachez que c'est fait avec vos enfants. Donc, n'hésitez pas à essayer de provoquer aussi la discussion avec les enfants. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école et qu'est-ce qu'on peut en faire? Et pour finir, vous parliez de la famille tout écran. En vidéo, il y a aussi un guide papier qui est édité et qui est vraiment là à destination des familles. Donc, ça peut être un bon complément, édité par le CLEMI.
Dans le chat, Prune de Montvallon du CIDFF nous fait part aussi des actions que porte le CIDFF sur ces différentes thématiques de cyberharcèlement à travers des cafés des parents et autres. Donc, vous retrouverez toutes les actions qui autour de tout ce qui est le volet parents sur le réseau Parents 06, toutes les actions 2021. J'avais une question pour Roxane, moi, par rapport à ces interventions. Elles sont à l'initiative de l'Éducation nationale, ça peut être des associatifs ou en lien avec les parents d'élèves? Comment ça se planifie ces interventions?
Alors, moi, je dépends de l'éducation nationale. Je suis anciennement professeure de l'éducation nationale. Je travaille au rectorat. Donc, quand nous intervenons, notre mission principale au CLEMI, c'est de former les professeurs. Pour que tous les professeurs, du premier degré, du second degré, soient formés à l'éducation média à l'information et ensuite puissent travailler ces thématiques dans leur classe. Mais on intervient ponctuellement, comme je vous l'ai dit, pour des projets plus particuliers ou hors les murs de l'école. Et là, c'est sur demande ça peut être sur demande d'un hôpital, comme je le disais, d'un centre pénitentiaire. On travaille avec de nombreuses associations aussi. Donc, nos coordonnées, on les trouve facilement sur le net. Et on construit avec soit les établissements, les professeurs ou les personnels d'associations, les actions. On en a beaucoup. Je n'ai pas parlé de tout, évidemment, mais on fait beaucoup de création de médias. Puisque nous, ce qu'on pense au CLEMI, c'est que les élèves, quand ils sont mis en situation de créer, ils comprennent mieux. Par exemple, on a parlé rapidement des théories du complot. On fait créer aux élèves de fausses théories du complot pour qu'ils comprennent les mécanismes à l'œuvre dans les théories du complot qu'ils peuvent voir sur Internet. Et s'ils en ont créé une, on leur a donné toutes les ficelles, ben peut-être que la prochaine fois qu'ils seront confrontés à une théorie du complot, ils vont comprendre que c'en est une. Et être un peu plus critique. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est sur tout le territoire, hein, des Alpes-Maritimes et du Var.
Merci beaucoup, Roxane.
Je voulais intervenir sur l'usage pour les jeunes, notamment chez les lycéens et pas chez les collégiens, du dark web, dont on ne parle pas, et qui est principalement utilisé par les garçons. L'Internet est un formidable outil transgressif, et tout est transgressif est forcément intéressant pour l'adolescence. Et donc, effectivement, on a toute cette partie-là sur laquelle tous les contenus interdits et toutes les relations sociales prohibées et tout ce qui est non politiquement incorrect circule. Et donc, vous pouvez demander à n'importe quel adolescent de lycée, notamment masculin, quelle est l'application qu'il faut télécharger pour avoir accès au dark web? Vous l'avez en quelques secondes. Voilà. Et cette partie-là, on ne l'aborde pas souvent, mais les adolescents n'ont pas avec l'utilisation des réseaux sociaux ou l'utilisation du net, n'ont pas pour vocation à partager avec l'adulte. Pas franchement. C'est un monde sur lequel ils se retrouvent, vous, et où ils ont de la liberté. Et c'est difficilement conciliable, ça. Mais par contre, effectivement, on peut échanger avec eux sur les contenus sur lesquels ils vont et qu'est-ce qui les intéresse sur la face cachée de l'Internet et du monde des adultes.
Merci Christophe. Je te repasse la parole, Marie. Peut-être en petite synthèse, une tentative de synthèse peut-être. Tentative, je veux dire. Peut-être sur ce temps-là, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a effectivement, on l'a fait ce matin aussi, il y a des risques, mais j'entends aussi des bénéfices aussi à l'usage numérique. C'est peut-être ça qui est à mettre en avant à travers ces actions, j'ai entendu, développer l'esprit critique, mais aussi la créativité qui est revenue plusieurs fois, et de réflexion collective. Et je rejoins aussi ce qui a été évoqué par Gilles Fragoli, le discernement peut-être est à remettre au premier plan.
Merci, merci Arnaud pour cette synthèse. Merci à tous les intervenants. On peut peut-être ouvrir un temps de discussion plus général et prendre des questions, à la fois dans le fil de conversation, mais même à l'oral, hein, si vous voulez poser des questions avec la petite main jaune, n'hésitez pas, que ce soit des questions pour les chercheurs ou des questions de chercheurs ou des questions pour les intervenants de la table ronde ou de leur part, n'hésitez pas. C'est le moment de vous lancer. Alors, dans le fil de conversation, il y a un sujet qui, en attendant que les questions se formulent dans les esprits, dans le fil de conversation, il y a un sujet qui revient à plusieurs reprises au sujet des questions de genre et de sexisme. On a vu le CIDF qui... et intervient aussi sur ces questions-là avec un angle lié justement aux stéréotypes sexistes et au et un commentaire également d'Alessandro Bergamaschi qui souligne également que les effets du genre sont écrasants et que les filles sont davantage victimes et plus et tout en étant plus ouvertes envers la diversité, alors que les garçons seraient davantage des auteurs. Voilà, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que dans le fil de conversation, c'est une problématique qui revient à différentes reprises. Comment croiser les questions de jeunesse en ligne et de genre et de diversité. Voilà, qui est une question qui est typiquement au croisement des préoccupations de l'URNIS et de la CAF des Alpes-Maritimes.
On a Madame Obadia qui lève la main.
Ah oui. Alors, on a des mains levées. Alors, allons-y. Qui a levé la main en premier? J'ai du mal à le savoir. Madame Obadia, vous donne la parole.
Merci, c'est très rapide. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire et donner encore une ressource proposée par le CLEMI, on est toujours là dans les petites vidéos à destination là, des élèves très jeunes. Ça s'appelle Chouette pas chouette et à destination des enfants de 3, 4 ans, 5 ans. Et c'est vraiment sur les stéréotypes de genre. C'est un petit dessin animé. Et donc, on voit toute une classe, ce sont des animaux, et qui se questionnent sur est-ce que tel métier, c'est que pour les filles, que pour les garçons? Est-ce qu'une fille est obligée de se maquiller? Est-ce qu'un garçon peut porter une jupe? Enfin, plein de petites informations qui sont intéressantes à voir avec les élèves les plus jeunes, parce que ça commence, les stéréotypes de genre, on peut travailler, on doit peut-être travailler sur ces questions dès le plus jeune âge. Donc c'est pareil, c'est une série à retrouver sur le web et c'est diffusé aussi sur Gulli ou je ne sais plus quelle chaîne de dessin animé. Peut-être que vos enfants sont déjà tombés dessus. Voilà, chouette, pas chouette. Je vous le recommande.
Prune de Montvallon, du coup, merci Roxane. Prune de Montvallon, je vous laisse la parole.
Merci Marion. D'abord merci parce que je suis cette conférence depuis ce matin et c'est vraiment super intéressant et on a plein de choses à y puiser et j'attends le lien avec impatience pour le repasser à l'ensemble de mes collègues qui malheureusement n'étaient pas disponibles parce que c'est davantage une partie de mes collègues qui interviennent sur le terrain, notamment dans les collèges, les lycées, universités, dans les écoles primaires de plus en plus, notamment auprès des classes de CM1, CM2, sous la forme notamment d'ateliers d'autodéfense verbale en prenant tout ce qui est communication non verbale, théâtre forum, y compris sur les questions de cyberharcèlement, d'espace numérique. Donc on intervient sur différents avec différents outils à travers les cafés des parents. On a du coup, j'en profite juste hein, pour le dire, on a aussi une campagne qu'on a développée au niveau régional qui s'appelle #violence je te quitte, qui aborde la question de la violence au sein des couples chez les jeunes, dans lequel on aborde la question du revenge porn et des violences qui peuvent se passer au sein des couples chez les jeunes, donc les jeunes, les 15-16 ans hein, notamment, et ça peut être plus jeune d'ailleurs. Et simplement, je voulais poser une question, en fait deux questions qui me semblent être vraiment peut-être un peu plus des angles manches. J'ai dû m'absenter plusieurs fois dans la conférence, donc peut-être vous les avez abordées. Alors la première, c'est vraiment la formation initiale et continue de tous les intervenants, des enseignants, mais aussi des travailleurs sociaux, des éducateurs. Il me semble qu'il y a encore un gros travail à faire, notamment, et c'est l'angle du CIDFF, hein, sur la question du sexisme, mais aussi sur la question du numérique plus largement. Hein. Mais sur la question du sexisme, je crois qu'il y a aussi des choses à faire sur la formation des enseignants. Et du coup, j'entendais que... Donc, je ne sais pas si Catherine Blaya est encore là, mais là-dessus, je ne sais pas si on peut, la façon dont on serait très heureux de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir développer des interventions communes autour de ces questions-là, mais aussi avec l'IESTS, on est en train de développer des choses autour de ça, sur la formation des travailleurs sociaux. On est en train de réfléchir à des petits modules, parce que nous, on intervient dans les classes et on s'aperçoit parfois que ça serait bien qu'on ait aussi des modules pour les enseignants, parce que parfois, il y a des choses qui les enseignants ont besoin aussi un peu de ressources par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est qu'on s'aperçoit aussi, on l'a abordé, Alessandro l'a dit aussi, c'est que on a développé pas mal d'outils autour des filles, et il y a plein de choses qui existent, et il y a encore plein de choses à faire, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de choses à développer autour du masculin et de la construction de la virilité. Et on voit que c'est un gros enjeu aujourd'hui, et qui met en difficulté pas mal de petits garçons. Et je pense qu'il me semblait, si je ne me trompe pas, qu'il y avait une étude de Catherine Blaya il y a quelques années, qui montrait aussi que les petits garçons étaient aussi victimes de violences sexuelles à l'école, notamment ceux qui ne se conformaient pas à l'ordre sexuel, et notamment aux normes de virilité. Et donc voilà, il me semble qu'il y a peut-être des choses à réfléchir ensemble sur ces normes de la virilité et ce qu'elles infligent aux petits garçons, aux plus grands et à la société en général. Et voilà, c'est plutôt des pistes de réflexion, à la fois sur la formation initiale et continue, et sur cet aspect-là qui me semble être une des choses sur lesquelles on doit travailler. Et une dernière des choses, c'est qu'on avait commencé avec le village à envisager de faire un groupe, comme il existait un groupe de parents qui était en réalité plus un groupe de mamans, de voir si on ne pouvait pas faire un groupe de papas. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le relancer parce que ça avait commencé à se faire. Et peut-être que, mais bon, le Covid a mis à mal pas mal de choses. On verra si ça pourra se refaire, parce que, en effet, mobiliser les papas, ça reste compliqué, mais on ne perd pas espoir. Voilà.
Merci. Merci. Après, peut-être des réactions de Catherine Blaya ou.
Oui, merci. Donc, tout à fait, au niveau de l'INSPE et de la formation initiale des enseignants, mais aussi au niveau de la formation continue. Il y a des formations qui concernent la question des discriminations, basées sur le genre. Il y a des formations sur la question de la violence, du cyberharcèlement, de la cyberviolence. Tout cela, donc, dans le cadre d'un abord des questions actuelles en éducation. Et nous faisons appel, outre les compétences de nos collègues en interne, aussi au milieu associatif. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter.
Merci Catherine. D'autres questions, réactions, remarques, commentaires ? Bon, ben on va s'acheminer doucement vers la fin de cette matinée. D'abord, merci pour cette table ronde et pour cette discussion. Hein. C'est toujours intéressant de partager des connaissances, mais aussi des expériences. Un des objectifs de la matinée, c'était aussi de partager des ressources, des références, des liens. Sur ce PowerPoint qui est amené à être diffusé par l'ensemble des participants à cette matinée, on a pris le parti d'avoir une rubrique dédiée à la bibliographie et aux ressources qui n'est pas complète. Donc, j'en appelle à l'ensemble des intervenants et aux participants, y compris, s'ils le souhaitent, à m'envoyer des compléments, des références, des liens, des contacts pour alimenter un petit peu cette rubrique de ressources. Donc, d'abord, un petit peu sur les publications. Attention, je crois que les micros sont restés ouverts. Les publications des chercheurs de l'URMI sur les questions de jeunesse et de numérique qu'on a entendues ce matin, peut-être à compléter encore par d'autres publications. les publications de la CNAV dont nous a parlé Virginie Gimbert en introduction, qui sont là, hein, on a mis aussi les liens Internet, les contacts, le lien pour le site des premières lunettes dans les Alpes-Maritimes, le CLEMI, donc le site du CLEMI de Nice, ainsi que des QR codes que le CLEMI nous a fournis pour accéder au livret Info Intox et à un parcours interactif sur l'infodémie. Si Roxane Obadia veut en dire deux mots, elle est bienvenue. On a aussi mis les liens de l'association des petits débrouillards, du centre social Le Village et de l'ARPAS hein, qui héberge le point d'accueil des coups de jeunes de Cagnes-sur-Mer. Voilà. Que vous dire d'autre? Voilà, vous rappelez donc que vous pouvez m'envoyer vos d'autres références, d'autres ressources à mettre dans ce PowerPoint. Nous vous tiendrons informés aussi au sujet de l'enregistrement de la vidéo de cette conférence en ligne. Si certaines personnes souhaitent s'y opposer, encore une fois, qu'elles me contactent directement. Voilà, donc vous serez informés des suites à donner à cette suite qui seront données à cette conférence en ligne. Si quelqu'un souhaite dire un mot de conclusion, il peut se manifester ou poser une question. Il est encore temps, on a encore quelques minutes devant nous. Si ce n'est pas le cas, je vais conclure moi-même par des remerciements. Voilà, remercier une nouvelle fois les chercheurs qui ont accepté de présenter ces travaux soutenus par la CAF des Alpes-Maritimes une nouvelle fois, hein, puisqu'ils l'avaient déjà fait. Mais donc dans ce cadre un petit peu inhabituel, hein, on a souhaité croiser les regards entre à la fois le monde de la recherche, celui des politiques familiales, celui des associations, des institutions. Donc c'est un défi un peu, un projet qui apparaissait un peu comme un défi. J'espère qu'il vous a satisfait, que tout le monde y a trouvé son compte en fait sur ces échanges. Je tiens aussi évidemment à remercier les intervenants hein, de la table ronde, dont les témoignages ont été très, très, très intéressants, qui ont pu faire écho aussi à ce qui avait été dit précédemment. Et je remercie tout le monde d'avoir joué le jeu du timing un peu serré et d'avoir coupé les micros quand c'était nécessaire. Voilà, et enfin, bien sûr, les personnes qui ont aidé à l'organisation, hein, qui ont co-animé cette matinée. Et pour boucler la boucle, ben, aux institutions qui ont porté ce partenariat depuis le début. L'Université Côte d'Azur qui a été représentée, la Nice évidemment, la CAF des Alpes-Maritimes et la CNAF aussi qui nous a fait le plaisir de participer. Voilà, je crois que j'ai tout dit de mon côté. Et je vous remercie. Quelqu'un souhaite dire quelque chose ou... Très bien.
Moi, je peux dire un mot. C'est juste des remerciements. Enfin, je crois que j'annonçais en début de matinée que les résultats allaient être riches. Je crois que les discussions ont aussi montré la grande richesse de cette rencontre. Je pense que c'est un succès et qu'il faut réitérer ce type d'opération lorsque l'occasion se présentera. Enfin, voilà. Je pense que je suis, pour ma part, en tant que remis, très satisfait, je dirais, du résultat de cette collaboration. J'espère qu'on pourra la poursuivre encore pendant longtemps. Voilà, merci.
Oui, je partage en tant que directeur de la CAF. Je voulais remercier Marion et toute l'équipe qui ont préparé cette webconférence. Et puis, je crois qu'en effet, hein, en deux mots, ce qui était attendu, c'est l'échange d'idées et puis... des prémices de prise de contact, et je crois que ça s'est manifesté, soit à l'oral, soit à travers le chat. Voilà, il y a des intérêts croisés, il y a une volonté de poursuivre et d'approfondir ces travaux. Donc, rien que pour ça, c'est une réussite, et grand merci à tous. Et donc, on se quitte avec un petit film.
Tout à fait.
Voilà.
Effectivement, un petit film donc, de la famille Tout Écran, la saison 3, voilà, qu'on vous a promis tout à l'heure. Alors,
qu'est-ce qu'il y a?
Quelqu'un a publié une photo de moi sur Insta pendant que j'embrassais mon petit copain.
Mais ça se fait pas, ça.
Mais c'est clair.
Surtout que je voulais pas que ça se sache.
Raté, la photo a déjà été partagée 50 fois.
Bon, chez nous, on se laisse pas faire. Chez nous, on agit.
Bon, tu proposes quoi?
On détague. Ça empêche pas la photo de circuler, mais c'est une première étape pour que tes amis aient moins de chances de tomber dessus.
Bonne idée. C'est fait.
Ensuite, on trouve qui a publié la photo.
Mais en plus, je le connais. C'est Franck, un gars avec qui j'ai pas voulu sortir. Je lui envoie un texto maintenant parce que c'est abusé.
Il a répondu.
Je suis désolée, j'ai retiré la photo. Pardon.
Tu me feras penser à vérifier que personne n'a posté la vidéo du pot de départ de Jacqueline.
Celle où tu chantes Tata Yo-Yo avec ton grand chapeau. Espérons.
Il est facile sur les réseaux sociaux de poster des photos ou des vidéos de vous sans votre accord. Et même de manière anonyme, cachée derrière des pseudos. Il faut être très vigilant, car cela peut aussi être le point de départ du cyberharcèlement. Les plateformes de réseaux sociaux ont mis en place des moyens pour signaler toute publication gênante.
Je pense qu'on devrait même te signaler pour crime contre l'humanité avec une voix pareille.
À ce point-là?
Au revoir à tous.